Un grand merci, chère Léa. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très, très honorée d'être parmi vous, salle 4 du Collège de France. Les choses se télescopent un petit peu puisque je suis en cours de montage de l'exposition dont j'assure le commissariat. Exposition éponyme, comme Léa vient de vous le dire. Le marché de l'art à Paris sous l'occupation, 1940-1944, au mémorial de la Shoah, où je vais avoir le plaisir de déplier mon livre. Alors, c'est pour ça que dans cet exercice juste avant ces propos liminaires, je voudrais vraiment, vraiment remercier vous, chère Léa Saint-Raymond, vous, Felicity Bonnenstein, et Arnaud, toi aussi. Merci de ne pas respecter l'ordre chronologique, pardonnez-moi, mais je vais m'éclipser dès 14h. Pour pouvoir bien poursuivre le montage de cette exposition. Alors, exposition éponyme qui reprend un petit peu ce que je vais vous expliquer et ce qui a été, alors, qui n'est pas véritablement la publication de ma thèse, mais qui est bien un ouvrage plutôt de vulgarisation. Je n'ai pas peur du mot, bien au contraire, j'aime beaucoup la vulgarisation. Vous parliez d'une exposition en 2010 sur Rose Vallant. J'ai pu effectivement écrire des livres d'histoire et en publiant avec Philippe Dagen les carnets de Rose Vallant, mais également dans la volonté de vulgariser un peu les choses, de faire des bandes dessinées et des ouvrages à destination des enfants mettant en scène Rose Vallant, et c'est toujours pour moi un grand grand plaisir d'avoir la réception et d'avoir le contact direct avec le public. Ma communication va s'articuler en deux points, en deux parties. Je vais d'abord vous présenter le contexte historique et puis ensuite j'aurai la chance et le plaisir de vous présenter, de vous emmener dans une balade une balade imagée dans cette exposition, et ça ne sera que virtuel afin de mieux vous inviter à venir la visiter à partir du 20 mars de la semaine prochaine. Voilà, donc, donc je vais commencer par la mise en contexte et la nécessité de rappeler un petit peu les faits. Le 14 juin 1940, vous le savez tous, les nazis entrent à Paris. On a tous en tête ces images, ce citoyen français qui pleure sur les Champs-Élysées lorsque les défilés arrivent. L'hôtel Drouot a l'habitude de fermer ses portes fin juillet. Donc c'est tout à fait ce qui se passe un peu de façon un peu prématurée, puisque mi-juin, l'hôtel Drouot ferme ses portes. On ne sait pas véritablement ce qui va se passer. Une délégation, une requête est adressée aux autorités occupantes dès le 26 septembre 1940. Je vois arriver Bénédicte Savoie et je l'embrasse très fort et je la remercie pour tout. Et je lui laisse le temps de s'asseoir très tranquillement. Donc, vous dire que se pose la question de la réouverture de l'hôtel Drouot. Et dès le 26 septembre 1940, une requête est adressée par une délégation française conduite par l'expert Pierre Blanc afin qu'il accorde la permission de reprendre les ventes d'œuvres d'art à l'hôtel Drouot. Cette autorisation va être accordée et cela en dépit d'une ordonnance allemande qui concernait, alors là je mets vraiment des guillemets, qui concernait la mise en sécurité des objets d'art. Mise en sécurité des objets d'art, qu'ils appartiennent à l'État français ou bien à des particuliers et notamment aux familles juives, principalement aux familles juives. On est tout à fait d'accord, il y a une première ordonnance allemande publiée le 15 juillet 1940 au journal officiel qui spécifie qu'il y a la nécessité de mettre en sécurité les objets d'art, qu'ils appartiennent à l'État français ou bien aux juifs et tout particulièrement. Les termes de l'ordonnance du 15 juillet 1940, dont je présenterai un exemplaire original dans l'exposition, les termes de cette ordonnance mentionnaient l'obligation de déclarer, d'une part, tout objet d'art d'une valeur supérieure à 100 000 francs, et d'autre part, d'interdire tout déplacement de ces objets sans aliénation et sans autorisation préalable. Une autorisation devait être demandée auprès de la Combe d'Entour afin que les objets puissent être déplacés. Et c'est bien sûr ce qui nous intéresse dans une vente et une vente aux enchères publiques, puisqu'on le sait que ces œuvres passent au feu des enchères alors qu'elles ont été collectées pendant de très très longues années et quelquefois très rapidement, eh bien, elles sont dispersées. Donc, cette ordonnance avait plusieurs avantages pour les autorités occupantes. Il s'agissait tout d'abord de dresser une certaine cartographie de la domiciliation des amateurs d'art, puisqu'on devait à la fois mentionner quelle était l'œuvre qui était vendue, à qui elle appartenait, à qui elle avait été vendue, et très vite, on obtenait une cartographie de la domiciliation des amateurs d'art. Alors, ces usages ont bien sûr été scrupuleusement suivis par les commissaires-priseurs, et bien que je n'ai trouvé absolument aucun catalogue de vente dans les dossiers d'Hermann Bougnès, qui est le chef du Kunstschutz, chef de la protection des œuvres d'art, eh bien, je n'ai pas trouvé de catalogue de vente, mais pour autant, j'ai trouvé mention de vente qui était signalée, et certains commissaires-priseurs, dont je vais nommer, eh bien, respectaient scrupuleusement cette ordonnance publiée le 15 juin 1940. C'est ainsi Étienne Adair, commissaire-priseur, qui signale la vente d'un tapis persan le 6 février 1941 à l'hôtel Drouot, en salle 6, pour la somme de 115 000 francs. On sait qu'il a été acheté par un certain Sida et on sait qu'il habite 64 rue de Provence. C'est ainsi que l'autre commissaire-priseur, Charles Kay, va déclarer en date du 10 février 1941, je le cite, « Je m'empresse de vous aviser qu'un tableau a été adjugé 108 000 francs à M. Dubert, 6 rue Muriot. Le vendeur était bien M. Lourdelet, 61 rue de Viviers, à Aubervilliers, dans la Seine. » C'est ainsi que Philippe Delorme, commissaire-priseur, signale, là encore, à Hermann Bougnès, le 2 avril 1941, qu'il procédera, le 4 avril 1941, à la vente des tapisseries du XVIe siècle, salle 1 de l'hôtel Drouot, sous le numéro 163 du catalogue 6 juin, dont l'ensemble doit dépasser la valeur de 100 000 francs. Vous voyez qu'on a véritablement, si on veut travailler sur le marché de l'art sous ces années noires, nous avons la possibilité d'avoir des archives, d'avoir la possibilité de travailler assez finement à une micro-histoire, ce qui a été ma méthodologie. Une autre méthodologie aurait pu être acceptée et aurait pu aussi venir compléter le travail qui a été fait. C'est une approche beaucoup plus macro-économique, hein, ce que vous faites, Léa. Et la mienne est plutôt de veiller de façon très, très, très serrée, et je vais vous le montrer tout de suite, à travailler sur la micro-histoire. Alors, je vous parle aussi d'un autre signalement, celui d'André Collin, commissaire-priseur, au sujet de l'achat réalisé à l'hôtel Drouot le 1er avril 1941, en salle 9, pour 120 000 francs, par Bruno Lozeux. Certains d'entre vous connaissent très très bien Bruno Lozeux, puisque c'est le missus dominicus d'Hermann Göring, chargé de surveiller le marché de l'art parisien. Il officie depuis le musée du Jeu de Paume, où il est un des chefs de l'ERR. Alors, Bruno Lozeux achète deux panneaux peints de l'atelier de Cranach appartenant à la comtesse de Bonneval qui habite 36 rue Schaeffer, Paris 16e. Vous voyez que nous avons véritablement beaucoup d'indications. Alors, comme l'hôtel Drouot est réouvert en 1940, je vais vous emmener passer une journée à l'hôtel des ventes, aux enchères de la rue Drouot. Alors, à travers un reportage photographique trouvé dans les archives, c'est assez improbable puisque ça a été trouvé dans les archives de la médiathèque de l'architecture. Alors, il faut bien que je sois responsable des archives du Musée des Monuments Français pour trouver ce fonds Noël Le Boyer dans les fonds de la médiathèque de l'architecture, et c'est un reportage qui va venir présenter, illustrer l'hebdomadaire Toute la vie, Reportage qui est fait donc en amont de ce reportage photographique qui est retracé dans cette revue Toute la vie du 5 novembre 1942. Et vous voyez qu'on approche de l'hôtel Drouot. C'est véritablement un moment très très attractif dans la vie parisienne, et les négociations accomplies pour l'ouverture et la rouverture de l'hôtel des ventes, comme je vous en ai dit un mot, eh bien, nous amènent à nous promener à l'hôtel Drouot lors du 30 octobre 1942. Je vais vous dire comment j'ai pu dater spécifiquement cette visite. Alors, nous arrivons vers l'hôtel Drouot et nous allons pouvoir suivre pas à pas Jean Tissier, acteur populaire des années 40. Il se présente, il passe devant l'hôtel Drouot, il se renseigne sur les affiches, sur les ventes à venir présentées dans ces affiches. Une me serre le cœur puisque nous avons une machine à tricoter à vendre, et je vous parlerai au cours de cette présentation les matériaux qui pouvaient passer en vente. On va s'intéresser beaucoup aux tableaux, mais il y aura aussi beaucoup de petits matériels issus pour la plupart du temps d'espoliation, des aryanisations et d'espoliation. Alors Jean Tissier est né en 1896, il est mort en 1973. C'est un acteur populaire très français dont la filmographie dans les années 40 a été très active. Il travaille au sein de la société de production cinématographique appelée la Continental, active pendant l'occupation, je viens de le dire, financée par les capitaux allemands. Un de ses personnages les plus célèbres est celui de l'illusionniste dont l'assassin habite au 21 d'Henri-Georges Clouzot en 1942. Vous voyez là, dans un portrait Harcourt, vraiment, sa figure a vraiment marqué la filmographie des années 40. Alors, l'hôtel Drouot, bien sûr, tout le monde connaît, mais il m'importe de rappeler que c'est une bourse de l'art, même s'il n'est pas rare que des débarras amènent leur lot de bric-à-brac. Les maîtres de séance sont les commissaires-priseurs. Quelques 80 commissaires-priseurs forment cette puissante corporation qui organise les ventes publiques des faits mobiliers après certains décès, certains divorces, ou bien lorsqu'on a la volonté de débarrasser aussi sa cave, son grenier ou son appartement. C'est ce qu'on appelle la règle des 3D. Les ventes peuvent aussi être ordonnées par autorité de justice. Et nous verrons dans la période qui nous occupe que les études de commissaires-priseurs seront, pour certaines d'entre elles, seront spécialisées dans la dispersion des collections artistiques appartenant principalement aux familles juives qui seront déchues de la nationalité française et dont le produit de la vente sera promis au Secours national qui est un organe du gouvernement de Vichy. Alors, j'ai lu, bien évidemment, vous en doutez, de nombreuses œuvres littéraires autour de Drouot. Et depuis le XIXe siècle, l'hôtel Drouot est véritablement décrit comme un lieu tout à fait pittoresque, attaché à ses us et coutumes, régi par ses propres règles. Sous la houlette des commissaires-priseurs, un petit monde évolue, tout dévoué à l'organisation des ventes aux enchères. Quelques crieurs, des commissionnaires à collet rouge, qu'on appelle plutôt les Savoyards, ils sont encore présents. Tout ce monde évolue sous les commissaires-priseurs et les commissaires-priseurs ont chacun leur propre spécialité et ont chacun leur propre domaine de compétences. Qui se charge des meubles, qui des tableaux, qui des livres, ou bien encore des armes à feu, des monnaies, des autographes, des objets de haute curiosité. Car, je me permets de le souligner, en ces périodes où tout manque à Paris, période de pénurie, eh bien, on vend de tout à l'hôtel Drouot. On vend des céramiques, on vend des gravures anciennes, modernes. On vend également des diptyques en ivoire, des râpes à tabac, des statuettes en bronze. Et je pourrais continuer comme ça un inventaire à la Prévert. Mais on vend également, alors je vous présente juste ici Jean Tissier, qui se présente, qui achète à la fois, alors il peut acheter soit la gazette de l'hôtel, est-ce que ça marche ? Oui, la gazette de l'hôtel Drouot, formidable source d'informations. Je vais vous donner d'ailleurs quelles sont les sources, les différentes sources pour travailler sur ces ventes. Il peut acheter la gazette de l'hôtel Drouot ou il peut acheter ici, ce qu'il fera, le catalogue de vente de toutes les ventes prévues entre 1942 et 1943. Donc ce sont véritablement mes instruments de recherche presque au quotidien pour lesquels je me réfère lorsque je cherche des œuvres d'art ou bien je tente de faire la traçabilité, ce qu'on appelle en ce moment et qui est très à la mode, les recherche de provenance en essayant de véritablement marquer les transferts de propriété des œuvres à travers les jalons. Alors, comment et quels sont les fonds et quelles sont les sources sur lesquelles nous travaillons ? Tout d'abord, indispensable, la gazette de l'hôtel Drouot. Je me tourne vers les étudiantes qui travaillent véritablement et les doctorantes qui travaillent sur ce sujet. Bien sûr, la gazette de l'hôtel Drouot, l'INHA, formidable bibliothèque qui m'a accueillie pendant plus de 5 ans, m'a permis de travailler de façon très active sur cette gazette de l'hôtel Drouot, a un projet de numérisation des gazettes de l'hôtel Drouot. Donc ça, c'est la première chose, puisque nous avons l'annonce de la vente. Puis, nous allons tenter et essayer d'obtenir le catalogue de la vente. Les catalogues de vente sont tous uniques. C'est travailler sur ces catalogues, c'est percevoir ce moment fugace où une collection, quelquefois rassemblée sur de longues et longues années, avec beaucoup de patience de la part des collectionneurs, des amateurs d'art, va finalement, en l'espace de 2-3 heures, eh bien, être dispersée aux quatre vents. Ces catalogues de vente, vous avez soit des mises en liste, ce qui sont très importantes, soit quelquefois, grand bonheur de la recherche, eh bien, des illustrations. Et ces illustrations m'ont permis quelquefois de retrouver des œuvres et de savoir quelles avaient été spoliées, puisqu'il y avait la présentation. C'est beaucoup plus facile, vous vous en doutez, de retrouver les œuvres d'après leur image pour les identifier que par la simple mise en liste. Donc nous avons le catalogue, quelquefois le catalogue illustré, ce qui est assez formidable, et les commissaires priseurs étant des officiers ministériels ont la nécessité et l'obligation de verser leurs archives aux archives de Paris, où nous avons le bonheur de travailler, surtout Léa, depuis de longues, longues années, eh bien, à travailler à la possibilité d'obtenir les procès-verbaux de ces ventes. Alors, la gazette de l'hôtel Drouot est très facilement accessible à l'INHA. Les catalogues de vente étaient assez difficiles à trouver, mais en 2012, à l'Institut national d'histoire de l'art, et grâce à la bourse de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, j'ai pu participer à un programme qui a permis de numériser 3000 catalogues de vente entre 1938 et 1950. Et la bonne nouvelle est que les catalogues entre 1940 et 1945 sont mis en ligne dans la bibliothèque numérique de l'Institut national d'histoire de l'art et véritablement accessible. C'est une chose qu'on pouvait trouver à la bibliothèque d'Heidelberg en Allemagne. Je me tourne vers Bénédicte parce que nos collègues allemands sont très, très en avance sur toutes ces recherches, supportées quelquefois par le Getty, financé quelquefois par le Getty. Et c'est vrai qu'en France, on avait un peu de difficultés, mais véritablement, nous y mettons véritablement l'Institut national d'histoire de l'art. Je vois mon collègue Thierry Bajou, service des musées de France, qui y travaille aussi de façon très active. Et donc, on a compris, on prend vraiment la dimension et la nécessité de travailler sur ce marché de l'art. Donc, la Gazette de l'Hôtel de Rouault, les catalogues de vente et les procès-verbaux lorsque ceux-ci sont disponibles. Pour avoir travaillé sur ma thèse entre 2012, j'ai l'impression que ça va être très longtemps, mais c'est vrai, 2012 et 2017, eh bien, j'ai travaillé uniquement sur dérogation. Voilà, donc à chaque fois que je tombais sur un catalogue de vente, 40, 41, 42, 43, 44, eh bien, c'était sur dérogation. Et donc, il fallait vraiment être assez insistante. Continuons notre visite avec autour de Jean Tissier. Vous voyez, il a acheté le catalogue de toutes les ventes, le répertoire des ventes, il les a sous le bras, répertoire des ventes 1942-1943. Il est en train de toucher à pleine main un vase d'une grande manufacture et il se renseigne. Alors, je vous ai dit, on trouve de tout à l'hôtel de Rouault en cette période de pénurie, même de beaux flacons. Ces beaux flacons iront orner les soirées du Gai Paris, les soirées des nantis de l'occupation. Et c'est par exemple la dispersion de la cave du marquis de Ganay, sous l'autorité de maître Étienne Adère, qui dit la chose suivante, je le cite, « Mise aux enchères de ces précieux flacons, en présence d'une assemblée où l'élément féminin dominait, les Côtes-du-Rhône triomphèrent, un ermitage 1879 ne fut pas cédé à moins de 230 francs la bouteille, un château fulmirant de 1920 mis en bouteille au château s'enleva, moyennant 170 francs. » Que de belles heures en perspective, nous dit maître Étienne Adère dans l'interview qu'il a livrée au Figaro le 5 novembre 1941. Ici, une image très intéressante où Jean Tissier admire, et là encore un rapport avec l'œuvre très très proche, hein, puisqu'il a la possibilité de s'approcher très proche du cadre. Et cette image nous dit que le ton fort à l'hôtel de Rouault est qui attire le tout Paris et le monde des arts parisiens, eh bien, c'est une grande vente de tableaux. Grande vente de tableaux, là, véritablement, les salles sont très occupées, sont ornées pour quelques jours par la présentation de lots prestigieux, et l'hôtel Rouault devient, pour quelques temps, finalement, un musée temporaire. Et j'emprunte cette formule à Ségolène Le Menn, qui nous avait fait une belle intervention à l'École du Louvre dans une journée dédiée au catalogue dans tous ses états. Voilà, un musée temporaire. Alors, le commissaire-priseur préside à la vente sur une estrade. Il est aidé dans sa fonction par les experts et la salle s'échauffe en attente de la présentation des pièces les plus importantes. Voici ce qu'on dit. L'hôtel de Rouault ne désemplit pas. Les marteaux résonnent dans toutes les salles. Le va-et-vient dans les magasins est sans interruption. Les beaux jours sont revenus pour les braves commissionnaires car les appels métalliques qu'emploient les fidèles de la maison des enchères se succèdent avec entrain. Ici, une photo véritablement intéressante puisque à main droite, vous avez la photographie originale et vous avez le montage. Vous voyez que Photoshop, eh bien, n'a rien inventé puisque toute la vie, dans sa livraison du 5 novembre 1942, va tout simplement échanger un tableau. Alors, je vais m'arrêter juste un moment pour vous dire que le tableau qui est présenté est celui le plus important qui passe lors de la vente du 30 octobre 1942. C'est un Lucas Cranach. En histoire du goût, c'est véritablement important parce que c'est de loin l'artiste préféré du Reichsmarschall et il est également un des artistes les plus recherchés avec Peter Bruegel, avec Rembrandt et on sait qu'en présentant cette œuvre dans cette revue, eh bien, on va interpeller une certaine population, une certaine clientèle. Car les marchands, les intermédiaires, les commissaires-priseurs n'ignorent pas l'importance des écoles du Nord, véritablement dans les goûts artistiques des principaux dignitaires nazis. Et ils savent pertinemment qu'en investissant sur ces œuvres, eh bien, ils peuvent compter sur un fort retour sur leur investissement. ici, alors je vous montre le catalogue, qui m'a permis de pouvoir, eh bien, à la fois dater la vente et à la fois qui a permis donc ce montage finement réalisé. C'est l'œuvre part, s'envole à 820 000 francs. On sait exactement à qui elle a été achetée et on peut en faire la traçabilité. Ici, un exercice de comptabilité. Vous voyez que ce marché d'art, on nous l'a dit dès 1986. Laurence Bertrand d'Orléac, dans la thèse qu'elle a présentée préfigurant le livre « L'art de la défaite », nous parlait du marché d'art florissant sous l'occupation où, lors de l'année 41-42, pas moins de 2 millions d'objets étaient échangés. Alors, une fois présentée cette journée, je vais essayer de vous montrer quels sont les traits saillants de ce marché de l'art sous l'occupation. Alors, je ne vais pas m'étendre parce que je n'en ai pas le temps, mais je le présente véritablement dans l'exposition, les différentes mesures qui ont permis la spoliation des familles juives, et je vais essayer de faire une différenciation dans l'exposition, mais pas ici dans ma présentation, entre ce qui revient des mesures allemandes et des lois de Vichy. Mais cette poignée de main présentée ici vous montre bien évidemment que les unes vont enrichir les autres, et que bien évidemment cette législation d'exception ira dans le sens souhaité par les autorités occupantes. Ici, un exemplaire donc de la préfecture de l'Aube, une affiche qui s'inspire de l'ordonnance allemande du 15 juillet 1940 qui prévoit la mise en sûreté, toujours entre guillemets, conservation des œuvres dans les territoires occupés, mise en sécurité des œuvres appartenant à la fois aux collections nationales et aux particuliers, principalement aux familles juives. Et puis ici, un panneau qu'on retrouvera sur les différentes galeries, dans les galeries appartenant aux familles juives. Vous dire qu'aujourd'hui, dans le temps imparti, je parle principalement de l'hôtel Drouot et je vais essayer de vous montrer les traits saillants, mais bien évidemment, je me suis intéressée à quelques cas personnels et je vais les nommer. Je me suis intéressée à la galerie Pierre, la galerie de Pierre Loeb, très belle galerie, très proche de Picasso, qui va vraiment travailler sur les avant-gardes et qui, juif, va être amené et invité à trouver un administrateur provisoire. J'ai travaillé également sur la galerie de Paul Rosenberg. J'y ai travaillé depuis 2012, donc un peu avant le livre d'hommage filial d'Anne Sinclair sur le 21 rue Lebessy, un peu avant aussi les deux expositions éponymes qui se sont tenues à la Beauvry de Liège ou au musée Mayol. J'ai également travaillé sur la galerie Bernheim Jeune et la destinée de René Guimpel, grand marchand d'art à la cote internationale, qui voyage entre Paris, Londres et New York. Sa famille m'a très gentiment confié une malle de la maison Louis Vuitton dans laquelle voyageaient les tableaux entre Londres, Paris et New York. Nous l'avons restaurée, nous allons la présenter, c'est un honneur. Elle porte le numéro 10, donc on imagine qu'il y en avait encore un certain nombre, et voyageait en paquebot avec des œuvres très fameuses, très 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 importantes. Je le disais tout à l'heure, René Guimpel a habité rue Spontini dans l'hôtel de Jacques Doucet et avait dans cet hôtel particulier une collection d'art extraordinaire. René Guimpel prête un Perronneau, on le sait par le livre de la galerie, un Perronneau à son confrère Jean-François Lefranc, afin que ce dernier puisse faire un peu de courtage. Or, René Guimpel entre très vite en résistance, dès juillet 1940, se rend dans le sud de la France, et là, il poursuit un peu de courtage pour tenter de faire vivre sa famille. Il est dénoncé par Jean-François Lefranc, on le sait, à qui il a pourtant confié le Peyronneau. Et cette dénonciation le conduit au fort de Montluc, puis à Compiègne et enfin au camp de Neuengamme, où il décède le 5 janvier 1945. Voilà, donc je vous emmène un petit peu loin, je vais revenir à l'hôtel Drouot, où je vous ai montré ce marché florissant, cette surchauffe, ces 2 millions d'objets qui transitent, qui sont vendus, et je vais vous parler des particularités également, et notamment des mesures d'exclusion des Juifs de l'hôtel Drouot à partir du 17 juillet 1941. Ce que ne voit pas, ou ce qu'ignore peut-être Jean Tissier, c'est qu'il passe devant deux panneaux, dont j'attire votre regard avec des flèches jaunes, qui stipulent à partir de la matinée du 17 juillet 1941, que l'entrée des Juifs dans les salles de vente de l'hôtel Drouot est interdite de manière absolue. Interdite de manière absolue, je pense que c'est la traduction très littéraire de l'allemand. De manière absolue. Non ? Bon. Verboten. Non. Bon. Ici, vous voyez que derrière son image, la flèche jaune, il est obligé de passer devant ses affiches. Et ces affiches, donc, je vous les présente de façon déjà un peu lointaine. On va se rapprocher. Ici, par ordre du commissariat général aux questions juives, l'entrée des Juifs dans les salles des ventes de l'hôtel, dans les salles de l'hôtel des ventes, est interdite d'une manière absolue. C'est repris, on a différentes photographies, je pense avoir collecté toutes les différentes formes sous différents angles. Nous avons un dessin repris par le petit Parisien et qui est aussi repris, c'est un peu une mise en abîme qui est assez jolie, reprise dans les archives de Elifabius, antiquaire, qui aura à pâtir d'une douzaine de ventes spoliatrices de son stock et de sa collection particulière. Ici, un gardien veille véritablement à l'entrée, et pour autant, nous aurons des lettres de dénonciation, de nombreuses lettres de dénonciation conservées dans le fond du commissariat général aux questions juives, pour lequel il m'a été très pénible de transcrire ces documents, ces lettres. Alors, vous voyez que le règlement de l'hôtel Drouot s'attache le plus possible à suivre les directives de la préfecture de police. En ce sens, il s'agit donc d'épurer l'hôtel des ventes de la présence juive au sein de sa clientèle, comme nous le verrons au sein également des commissaires-priseurs. Un journaliste préconise, un peu en amont de la position de cette affiche, préconise un nettoyage de l'hôtel des ventes, et je vais me permettre de le citer, c'est une citation assez longue. Voici ce qu'il dit. Il est bien évident que l'organisme Hôtel des Ventes est personnellement irresponsable de cet état des choses. Il ne fait qu'appliquer les décrets pris par le législateur. Profitons donc de l'éclipse législative, c'est-à-dire qu'il est en amont de la possibilité de mettre cette affiche. Donc, profitons donc de l'éclipse législative, éclipse que nous souhaitons définitive pour nettoyer la maison. Nettoyage intérieur. 1. Il faut, pour commencer, exiger autre chose des commissaires-priseurs qu'un casier judiciaire vierge. Exiger autre chose que la possession des millions nécessaires à l'achat d'une charge vacante. Il faut exiger de ces messieurs une honnêteté, une intégrité absolue sous peine des plus graves sanctions. 2. Exercer un contrôle rigoureux des ventes pour interdire aux petits marteaux de buis certaines petites fantaisies. Exiger, par exemple, qu'entre les dernières enchères et le déclic fatal, il s'écoule obligatoirement un laps de temps de 15 à 30 secondes. Cette simple mesure rendrait impossible toute contestation ultérieure. 3. Avant la mise en vente, contrôle strict des marchandises pour éviter autant qu'il sera possible la vente d'objets volés. Nettoyage extérieur, interdire aux Juifs l'accès de la salle des ventes. Et l'auteur de ces lignes de conclure, ces mesures peuvent être prises immédiatement, leurs effets salutaires se feront sentir. Donc, vous le voyez, les autorités d'occupation, qui auraient pu remarquer que certains juifs participaient, eh bien, vont effectuer des contrôles et le commissariat général va très strictement appliquer ces mesures et vont véritablement vérifier que les personnes présentes avec leur carte d'identité n'ont pas le tampon juif apposé sur leur carte d'identité. C'est ainsi que le service d'ordre a été renforcé, que les arrivants sont priés de montrer leur carte d'identité. Le matin, dans sa livraison du 18 juillet 1941, soit le lendemain, rapporte qu'il n'y a pas eu d'incident. Et il y a, je vous l'ai dit, des fins observateurs qui iront dénoncer et certaines lettres des dénonciations qui font florès témoignent anonymement d'une rhétorique, bien évidemment, antisémite. Alors, au sein de la corporation des commissaires-priseurs, il s'agit également d'apporter quelques aménagements pour complaire aux autorités occupantes. C'est ainsi que le seul commissaire-priseur juif, Maurice Reims, fils du général Reims, mobilisé en 1939 dans le génie du chemin de fer, croix de guerre, s'est replié dans son unité. Et il y est dit que finalement cette constatation ne change rien au fait que l'esprit qui règne dans les milieux des salles des ventes est 100% enjuivé et les tractations qui s'y font sont rarement correctes. Alors j'ai pu retrouver au cours de la numérisation des 3000 catalogues de vente la mention d'un catalogue de vente dans la salle numéro 1 de l'hôtel Drouot le 19 décembre 1941. Qui portait la mention de maître André Derberg, qui était administrateur provisoire de l'étude de maître Maurice Reims et qui a été, qui a débuté cette administration provisoire en septembre 1941, qui perdura jusqu'en septembre 1944. Voilà. On sait pour autant que Maurice Reims n'était pas loin et qu'il veillait un petit peu au grain et que les choses n'étant pas possible de rendre en tout noir ou tout blanche, hein, il faut vraiment avoir beaucoup de nuances dans ces affaires et dans ces sujets sensibles. On sait que l'étude Maurice Reims arianisée aurait pu traiter une vente, au moins une vente de biens juifs. Puisque des ventes de biens israélites, eh bien, vous en avez mention. Dans, j'en ai pour preuve deux témoignages ici. Le premier est une affiche d'une vente d'Alphonse Bélier le 13 décembre 1943 à 16h dans la salle numéro 1, qui est la salle la plus importante de l'hôtel Drouot, la vente de biens israélites. Inutile de vous dire que les personnes qui achètent ne peuvent pas ignorer la provenance des œuvres qui passent sous les maillets d'ivoire. Pareil pour cet idem pour ce catalogue, un unicum catalogue de l'INHA, où l'étiquette vient voiler un petit peu la présence. Très gentiment, ils ont accepté de l'enlever pour la présentation dans l'exposition. Et bien, pardonnez-moi, cette vente de biens israélites à la demande du commissaire gérant, commissaire administrateur provisoire, puis commissaire gérant. Hein, par la suite, le commissaire provisoire est tenu de faire un inventaire, de réaliser la vente du stock des galeries, puis ensuite un commissaire gérant peut avoir la gérance de la galerie. Intéressons-nous maintenant, une fois que je vous ai expliqué les mesures d'exclusion, à la physionomie de la clientèle de l'hôtel Drouot. Ces photographies, toujours issues du fonds Noël Le Boyer, qui sont absolument édifiantes par leur possibilité de présenter un nombre très très important de publics présents en salle. Et ici, une photographie, alors on est plutôt à la galerie Charpentier, nous ne sommes plus à l'hôtel Drouot. Et puis le cordonnier étant toujours le plus mal chaussé, c'est la photographie de mon ouvrage et de l'affiche de l'exposition, avec au premier rang, nous n'avons pas voulu le mentionner ni dans l'affiche, ni le préfet Bouffé, accompagné de sa dame. Et c'est une photographie, bien sûr, que j'aime beaucoup, puisqu'elle parle d'elle-même. Elle est véritablement très, très, très importante. Et les chapeaux de ces dames nous permettent véritablement de dater cette vente aux enchères à la galerie Charpentier en 1944. Alors, la physionomie des amateurs courant les ventes de l'hôtel Drouot évolue de facto. Nous l'avons vu, les lois xénophobes relayées par l'administration de Vichy mettent bel et bien au ban les personnes de confession juive ou considérées comme telles. Les grands collectionneurs étrangers ne viennent plus à Paris, préférant donner procuration à qui de droit pour les représenter. Il est vrai que certains intermédiaires opéraient déjà avant-guerre pour le compte de collectionneurs dont la simple présence en salle aurait fait augmenter de façon significative les prix des œuvres, ne sont plus présents. La clientèle provinciale déserte également, ne pouvant plus se déplacer dans un contexte de ces années de guerre, bien évidemment. Alors, qui sont les nouveaux amateurs du marché de l'art sous l'occupation, qui cherchent à placer leur argent dans un marché devenu, en cette période d'inflation, un marché refuge. Au charme d'un endroit éminemment parisien, l'occupant du Gai Paris ne peut que succomber. Et c'est ainsi qu'on a vu que pouvait fréquenter l'hôtel des ventes la présence de nombreux directeurs de musées et de galeries d'art allemandes. Alors, je peux parler du Rheinisches Landesmuseum de Bonn, le Kunstverein de Cologne, le Staatliche Kunstsammlung de Düsseldorf, le Wolfgang Museum de Dessen, le Volker Museum de Frankfurt sur le Main, le Museum Kunsthalle de Hambourg, la Kunsthalle de Karlsruhe, le Musée des Tapisseries de Kassel, ou bien encore le Kunsthistorische Museum de Marburg, ou bien encore le Musée die Neue Pinakothek de Munich, le Stadtmuseum de Wunderpahl, et bien d'autres encore. Parmi cette clientèle renouvelée et transformée, les marchands d'art allemands, certains ressortissants suisses qui acceptent de payer des prix très élevés pour le marché de l'art parisien. Ce marché de l'art parisien en 1939 était bien évidemment un des premiers. Leur fréquentation est recherchée par tous les intermédiaires français qui flairent la possibilité de faire des bonnes affaires en tant qu'intermédiaires. Ainsi, parmi les chefs de file, je peux parler de Karl Haberstock, de Bruno Lozeux, de Hans Wellang, d'un certain Maurer, de Siegfried Kotz et également de Hildebrandt Gurlitt, dont d'aucuns connaissent le nom maintenant. Les nantis de l'occupation forment donc une nouvelle catégorie de clientèle, comme le soulignait déjà Raymond Moulin, sociologue des arts, dans ses travaux précurseurs. Voici ce qu'elle disait, je la cite: les enrichis du marché noir ont cherché dans la peinture une garantie financière, un élément de prestige social, mais aussi une source de plaisir. En un mot, de nouveaux venus à l'hôtel Drouot, enrichis par le marché noir, disposaient de liquidités qu'ils investissaient dans une consommation ostentatoire d'objets d'art. Alors, il m'importe maintenant de vous présenter, et je m'arrêterai dans quelques instants, présenter les belles ventes, deux belles ventes sous les maillets d'ivoire, et j'aurais pu en prendre de nombreuses. J'aurais pu prendre celle de la collection de Maurice Delacre, de différentes successions. Il se trouve que lorsque je venais de parler d'Hildebrandt-Gurlitt, il m'importait de vous présenter assez rapidement la première vente de la succession de Georges Viau. Dans une atmosphère de surchauffe, s'ouvre le 11 décembre 1942, dans trois salles réunies en une seule pour la circonstance, la vente de dessins, aquarelles, gouaches, pastels et peintures d'impressionnisme dépendant de la succession de Georges Viau. C'est donc sous l'autorité de maître Étienne Adair, maître Alphonse Bélier, maître Henri Baudouin, assisté des experts André Scholler et des experts Durand-Rouel, que va se dérouler eh bien, cette vente. Présent en salle, le docteur Hildebrand-Gurlitt, qui fait sensation, pousse en effet l'enchère jusqu'à 5 millions de francs lors de la présentation du lot 78, une peinture de Paul Cézanne intitulée « La vallée de l'Arc et la montagne de la Sainte-Victoire ». 5 millions de francs, j'espère que j'ai bien dit francs, 5 millions de francs, c'est l'œuvre la plus chère de toute la période de l'occupation. Puis il va compléter ses achats d'une peinture de Corot, d'un portrait d'Honoré Daumier, de 8 dessins de Corot, d'Edgar Degas, Delacroix, Rodin et Théodore Rousseau. Pour l'anecdote, le Cézanne s'est révélé être un faux, de même que le Daumier, et cette constatation me permet de dire que la circulation d'œuvres apocryphes, de copies d'œuvres originales sur le marché de l'art, est véritablement devenue un sport national des marchands, âpre au gain. Pour s'en faire une idée, je vous renvoie aux achats de Maria Almas Dietrich, une des marchandes principales d'Hitler, plus exactement, qui va acquérir pour des sommes exorbitantes eh bien, d'innombrables copies acquises, bien évidemment, pour des originaux. Et dans les achats d'Hildebrand-Gurlitt, eh bien, dans le trésor de Schwenbing, il y a des œuvres apocryphes, et notamment une scène allégorique de Marc Chagall, lorsque Chagall s'est présentée, la petite fille de Chagall, et a pu observer eh bien, l'œuvre très vite. Elle a fait le voyage à Munich et je n'étais pas présente, mais a ouvert et a dit refermer. Voilà, c'est un faux. Et il y a également deux dessins d'Auguste Rodin qui sont considérés comme des faux. Il n'empêche qu'avec cette vente, eh bien, je peux dire qu'elle est révélatrice à divers égards. Hildebrand-Gurlitt, à l'instar de nombreux marchands français, allemands, suisses, véritables, redoutables hommes d'affaires, âpres au gain, mis à profit son entregent, ses connaissances d'historien de l'art, au seul dessein d'enrichir le stock de sa galerie d'art ou de sa collection personnelle d'œuvres d'art. Voilà, il y aurait beaucoup à dire. Je ne vais pas finir sur cette photo qui nous invite pourtant à faire des recherches de provenance. Nous avons là un inconnu qui part avec un tableau qu'il vient d'acquérir à l'hôtel Drouot, une vraie envie d'aller voir un petit peu plus loin. Je vais essayer de m'en sortir avec une prouesse technique pour laquelle je ne suis pas très douée. Il faudrait peut-être le son. Alors, vous avez alors en image, là encore, une présentation de l'exposition dont je vous ai véritablement présenté et qui ouvre donc le 20 mars. Je vous y attends nombreux. Merci beaucoup.